And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms and restrictions apply.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets, and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
OK, donc je vais faire ça avec ma meilleure voix FM. Bonjour tout le monde et bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur les Canadiens de Montréal avec Marc-Antoine Godin et mon fidèle acolyte Arpin Basu. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine, comment vas-tu? T'as l'air un peu magané.
Écoute, j'ai pris ma meilleure voix de Jacques Fabi, l'animateur de nuit à 98.5. J'ai un Demogorgon à l'intérieur de moi qui cherche à sortir.
Ah, bon, ben...
Mais c'est correct.
On va toffer là-dessus. On va toffer avec ça, puis ouais, ça, on va garder ça bref, mais il y a du mouvement dans le monde du Canadien. Ça fait comme un mois, plus qu'un mois, 5 semaines depuis qu'on vous a parlé, nos fidèles auditeurs, mais il y a eu un paquet d'affaires qui s'est passé dernièrement. On pensait qu'on reviendrait en jaser un tout petit peu, mais avant de parler de l'actualité entourant le Canadien, on voulait peut-être juste revenir un peu sur notre sondage des amateurs qui, encore une fois, avait beaucoup de réponses. Plus que 1500 d'entre nos abonnés athlétiques ont répondu à notre sondage, puis a donné des résultats quand même assez intéressants.
Oui, absolument. Moi, ce qui m'a frappé le plus d'entrée de jeu, c'est le niveau d'optimisme affiché par les amateurs. Écoute, on avait fait notre premier sondage au mois d'avril, et à cette époque-là, il y avait environ les deux tiers des amateurs qui jugeaient que dans l'état actuel, dans l'état à ce moment-là, l'état des choses au mois d'avril, 62% des amateurs croyaient que le Canadien n'était pas une équipe digne des séries éliminatoires, n'était pas une équipe de calibre des séries pour la saison prochaine, donc pour 2020-2021. Et puis après ce qu'on a vu donc durant les séries éliminatoires dans la bulle à Toronto, ce qu'on a vu également durant l'entre-saison, les changements apportés par Marc Bergevin, cette proportion-là a bondi. On est rendu, écoute, avec 95,3% des répondants qui ont jugé que le Canadien avait une équipe digne des séries éliminatoires. Donc, ça a changé du tout au tout. Et mon impression personnelle, c'est que ça a encore davantage à voir avec les mouvements de personnel de l'automne que la prestation du Canadien en séries éliminatoires.
Ouais, ben je pense que c'est une combinaison des deux. Puis en fait, moi je dirais que tu sais, l'entre-saison du Canadien a été influencée par leur prestance en séries éliminatoires. Tu sais, je pense pas que Marc Bergevin aurait eu autant de confiance en son équipe, dans le fond, pour investir de cette manière-là. Tu sais, l'échange Domi-Anderson, ça me surprend pas du tout. En fait, ça fait longtemps que nous deux, on réclame un échange. En fait, exactement cet échange-là. Alors, c'était pas une grande surprise quand c'est arrivé.
Oui, absolument, c'est ça. On l'a écrit noir sur
ça.
Blanc.
Mais c'était pas juste nous, là. Il y avait un peu tout le monde qui voyait que ça avait juste du sens. Max Domi, c'est un excellent joueur. Les Blue Jackets avaient besoin d'un joueur comme lui, Josh Anderson. Avait un package que le Canadien en avait besoin depuis longtemps. Alors, je pense que c'est un échange un peu gagnant-gagnant. Mais les autres, tu sais, signer Toffoli, signer Allen, et signer, ben, faire l'échange pour Allen puis le signer par après, et encore signer Joel Edmondson puis signer ou faire l'échange puis signer aussi, c'est, je pense, tout ça a un certain lien avec les séries et sont chacun différents. T'sais, Tyler Toffoli, c'est un marqueur, c'est évident. Puis encore une fois en série, on voyait que peu importe à quelle la qualité de jeu du Canadien, ils ont toujours de la misère à mettre la rondelle dans le filet. Là. C'était quand même assez évident contre les Flyers. Je trouve que le Canadien a joué une très bonne série contre les Flyers. Sauf il manquait ça. Alors Tyler Toffoli, peut-être régler, c'est un peu trop fort, mais c'est quelqu'un qui va contribuer à régler ce problème-là. Jake Allen, je pense que l'influence, c'est de voir Carey Price en plein repos, comme à quel point il est capable de performer et dominer à sa position de gardien. Alors, je pense que la prestation des séries de Carey Price était le final, tu sais, le son de cloche finale pour que le Canadien comprenne finalement que oui, effectivement, on a besoin d'investir encore plus d'argent à nos gardiens pour faire en sorte que Carey Price peut jouer de même. Et Joel Edmondson, je pense, c'est non seulement la prestation du Canadien, mais juste depuis 2-3 ans en série, voir quelles sortes de joueurs sont plus efficaces en série. Puis tu sais, Josh Anderson est parmi ce groupe-là que, tu sais, quand les Blue Jackets ont balayé les Lightning de Tampa Bay l'année passée, en série, Steve Yzerman, qui était déjà à l'époque, disait qu'on n'avait juste pas de réponse pour Josh Anderson, à un moment donné. Alors, puis Joel Edmondson, je pense qu'il est dans le même bain, dans le sens où peut-être en saison régulière, il va avoir des lacunes, il va avoir des périodes où il est un peu moins efficace, mais rendu en série, c'est le type de gars qui peut vraiment aider une équipe. Alors, je pense que chacun de leur façon, l'acquisition de Marc Bergevin, de chacun de ces joueurs-là, était un peu liée effectivement aux prestances en séries éliminatoires.
Ben d'ailleurs, les séries éliminatoires aussi ont mis en lumière le rendement de Carey Price quand il est reposé. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à faire en sorte que les amateurs se montrent confiants envers l'avenir. Parce que aujourd'hui, quand on tient compte de l'acquisition de Jake Allen qui va ôter un gros fardeau sur les épaules de Carey Price, on regarde encore dans le sondage. Écoute, il y avait quand même un bon fond de confiance envers Price auparavant dans notre premier sondage. On demandait aux gens leur niveau de confiance sur une échelle de 1 à 5. 1 étant le moins de confiance, puis le 5 étant en ayant le plus. Et puis, la question était de savoir si vous croyez à la capacité de Carey Price d'être ou de redevenir, d'une certaine manière, l'un des 5 meilleurs gardiens de but de la Ligue. Au moment du sondage d'avril, tu avais quand même 34% des gens qui avaient répondu 4 sur 5 et 31,9% qui avaient répondu 5 sur 5. Donc, je pense que les gens ont encore une opinion très favorable à l'endroit de Price. Mais là, avec l'arrivée de Allen et voyant ce dont il a été capable durant les séries éliminatoires, tu as maintenant 35% des gens qui ont voté 4, 35,5% des gens qui ont voté 4 et 50,2% des gens qui ont voté 5. Donc, de manière générale, là, c'est presque 9 amateurs sur 10 qui ont une grande confiance envers les capacités de Price de se hisser de nouveau au rang de parmi les 5 meilleurs gardiens de but du circuit. Ça, je pense que ça joue pour beaucoup dans la confiance des partisans, puis ça fait en sorte que je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme envers l'avenir à cause de ça.
Oui, je suis d'accord. Puis en fait, ce que moi, ça me rend optimiste dans ce volet-là, c'est que l'arrivée de Jake Allen va faire en sorte que le Canadien ne va pas avoir besoin, disons qu'il y a 60 matchs cette saison. T'sais, ils n'auront pas besoin nécessairement de jouer Carey Price les 20 derniers matchs juste pour se rendre en série. T'sais, même s'ils sont dans une course pour les séries, tu peux quand même jouer Jake Allen de temps en temps en ayant confiance qu'il va faire la job puis qu'il ne va pas te coûter effectivement d'accéder aux séries. Alors, avoir un Carey Price qui a pas besoin de surtaxer juste pour se rendre là, donne une meilleure chance aux Canadiens de d'avancer en série. Non seulement de faire les séries, mais d'avancer une ronde, deux rondes. Si tu as un Carey Price qui est reposé d'une certaine manière. Alors, ça aussi, ça met la confiance. Mais l'autre chose qui m'a frappé aussi, c'est le point auquel... Tu regardes les deux graphiques de le mois d'avril et de le dernier sondage en concernant Marc Bergevin. Et moi, si on aurait fait cet exercice-là il y a 2 ans, disons en 2018, je suis sûr que la grande majorité des partisans du Canadien auraient dit qu'ils ont perdu confiance en Marc Bergevin. Jeff Molson a pris la décision, ça se controverse, je ne sais pas s'il y avait une controverse là-dessus, mais c'était très discutable, disons, que de garder Marc Bergevin à cette époque-là pour lui donner une chance de faire son fameux reset. Et, tu sais, 2 ans plus tard, on voit que, au moins aux yeux des partisans qui ont répondu à notre sondage, ça portait fruit parce qu'en avril, si tu regardes, tu sais, il y avait 23, les deux plus populaires réponses étaient 6 et 7. Et ça, c'était à peu près 42% des répondants qui ont fait 6 ou 7 sur 10 pour évaluer la performance de Marc Bergevin. Là, quelques mois plus tard, ou en fait 7 mois plus tard, les deux réponses les plus populaires sont 8 et 9, et c'est quasiment 60% des répondants qui ont donné un de ces deux réponses-là, qui est quand même, pour un directeur général, recevoir une note de 8 ou 9 sur 10 est quand même assez impressionnant aux yeux des partisans, là.
Ben, écoute, compte tenu du nombre de toutes les années où le Canadien n'a pas fait les séries éliminatoires, il les a faites cet été,
mais pas vraiment.
Il y a clairement un astérisque à côté de...
Ça compte pas. À mes yeux, ça compte pas.
Non, absolument pas. Et ça se produit aussi, ce vote de confiance-là, parce que c'est clairement de ça dont il s'agit. Il se produit 8 ans après l'arrivée en poste de Bergevin. Ça lui donne vraiment une deuxième jeunesse. Puis on l'écrivait dans notre article. C'est comme si le reset qu'il avait prôné il y a 2 ans, mais lui, au niveau de sa marque de commerce à lui, son reset, c'est cet été qu'il l'a connu. Et finalement, il retrouve une certaine virginité jusqu'à un certain point à l'égard dans les yeux des amateurs. Et c'est impressionnant. Et ça me rappelle un petit peu les nombreuses vies qu'avait Lindy Ruff derrière le banc des Sabres de Buffalo, où il était passé à travers des controverses, puis à certains moments, tu disais « Oh, il est sur le bord de la porte », puis à un moment donné, il se passait une année ou deux qui faisait en sorte qu'il se développait une deuxième vie, et il a eu un très très long règne derrière le banc des Sabres de Buffalo. Et j'ai l'impression que dans le cas de Bergevin, il est beaucoup plus solidement en poste maintenant qu'il était forcément il y a 2 ou 3 ans, au moment d'amorcer ce reset-là, parce que je pense qu'il est à même de présenter potentiellement la meilleure équipe qu'il a eue sous la main jusqu'à maintenant. Sauf que tout ça demeure quand même très fragile. On a quand même une majorité de répondants qui pensent que si le Canadien ne fait pas les séries éliminatoires la saison prochaine, il va quand même perdre son poste. Je ne sais pas si on aurait dû poser la question à savoir croyez-vous qu'il devrait perdre son poste, mais il y a quand même une majorité de gens qui pensent qu'il va le perdre si le Canadien ne fait pas les séries. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
Mais effectivement, je pense que si on aurait formulé la question différemment puis dire, tu sais, est-ce qu'il devrait perdre son poste, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de réponses dans la colonne de oui là-dedans. Je pense qu'on a reçu des commentaires sur les médias sociaux et dans l'article elle-même en disant qu'effectivement, pour cette question-là, il y a beaucoup de monde qui ont répondu non juste parce qu'ils ne croient pas que Jeff Molson va le congédier. Mais à leur avis, s'il manque les séries, s'il n'y a pas de question que Marc Bergevin devrait perdre son poste. Ce qui est correct, en fait. Moi je trouve que, tu sais, si il rate les séries encore la saison prochaine, après tout ce qui s'est passé, ça serait un échec assez assez frappant, là. Puis je pense que ça ferait comme... Ça serait quoi si on considère cette année comme étant une année où il a manqué les séries? Ça serait 5 fois en 6 ans qu'il rate les séries s'il manque l'année prochaine. Alors, c'est... Il n'y a pas beaucoup de DG qui survivraient à une situation de même, puis particulièrement à Montréal, mais même pour n'importe quelle équipe, quand tu rates les séries 5 fois sur 6 ans, il n'y a pas beaucoup de DG qui sont capables de passer à travers ça. Mais je pense, honnêtement, je pense sincèrement que les Canadiens vont les faire. Il a quand même bâti une bonne équipe. Mais l'important là-dedans, puis encore une fois, revenant aux questions du départ, est-ce que c'est la prestation des séries ou ou tout le mouvement pendant l'entre-saison? Une autre chose qui était un résultat, puis qui a sûrement influencé la décision de Marc Bergevin, c'était la prestation de Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi en série. Ce qui lui a donné confiance que, OK, bon, là, on a deux centres. Là, c'est le temps d'aller chercher des ailiers pour les bien entourer et tout ça. Alors ça, c'était une autre façon que les séries ont influencé ce que Marc Bergevin fait entre saisons. Puis dans notre sondage, ce qui était assez frappant pour voir, tu sais, on a décidé de demander aux abonnés d'Athletic, c'était quoi leurs attentes pour Suzuki et Kotkaniemi la saison prochaine en termes de points. Puis on a donné comme 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60 et 60 et plus. 53,6% qui trouvent que Nick Suzuki va récolter entre 50 et 60 points l'année prochaine, ce qui est quand même quelque chose. Ouais. Puis un autre 10%, 10,6% qui pensent que ça serait 60 ou plus. Alors, on est rendu à plus que 64% des partisans ou des répondants à notre sondage qui croient qu'il va au moins dépasser le 50 points, ce qui est quand même quelque chose. Et dans le cas de Kotkaniemi, ils sont 55% à croire qu'il sera entre 40 et 50 points. Ce qui est pas mal la production de Philippe Dano. Philippe Dano, c'est un joueur de 40 à 50 points, plus ou moins. Alors, quand tu mets les deux ensemble, puis si tu t'attends à ce que Philippe Dano a la même production qu'il a déjà démontré d'une certaine façon, s'il garde ça assez stable, entre 40 et 50 points, là, si tu as trois joueurs de centre qui sont dans ces eaux-là, là, ça commence à devenir intéressant parce que si t'es un entraîneur adverse, oui, qu'est-ce que tu fais? C'est contre quel trio est-ce que tu décides de concentrer tes efforts, de mettre tes meilleurs joueurs défensifs pour affronter sur la glace? Ça devient un dilemme assez intéressant pour Claude Julien et le Canadien, puis là, leur donne un petit avantage. On verra ce que ça donne. Mais c'est aussi intéressant de voir à quel point Nick Suzuki a beaucoup plus d'optimisme de son bord parmi les partisans que Kotkaniemi, parce que Kotkaniemi a quand même la deuxième réponse la plus populaire pour Kotkaniemi, c'était 30 à 40 points à 29%, ce qui est plus ou moins ce qui a produit comme recrue là. Alors c'est un peu ça, mais si Kotkaniemi est capable de produire disons 45 points, t'as une 50 points de Dano, t'as une 52-53 de Suzuki, là le Canadien c'est une équipe quand même assez compétitive
là. Absolument. Puis là, ça donnerait, là, ça justifierait l'acquisition de Toffoli et d'Anderson pour faire en sorte que le Canadien soit doté de trois solides trios, puis de faire en sorte aussi que ça pose un défi à l'autre équipe de dire bon, mais de quelle manière on va couvrir ces trois trios-là, de quelle manière on va faire des confrontations, et ça donnerait à Claude Julien l'embarras du choix. Puis je pense que ça aussi c'est une raison de se montrer optimiste par rapport à l'année prochaine. Écoute, je ne saurais trop insister à quel point les amateurs sont emballés par Nick Suzuki. C'est incroyable. Les gens sont contents également de l'arrivée de Josh Anderson. Peut-être un peu craintif à l'égard de la durée de son contrat, à l'égard aussi du montant d'argent qui lui a été remis. Par contre, le profil de joueur qu'il représente et qui justifie en partie pourquoi il a reçu ce contrat-là, c'est un profil de joueur qu'on n'a pas vu à Montréal depuis des années. On s'écrivait au moment de rédiger notre texte relatif au sondage, puis on se posait la question, toi et moi, à savoir, ça, justement, ça remonte à quand? Est-ce que c'est Rick Cole? Est-ce qu'il faut remonter à John LeClair? Écoute, ça fait longtemps qu'on a eu ce type d'attaquant de puissance, gros bonhomme, rapide, capable de marquer des buts. Alors ça, c'est, je pense que je comprends les gens d'être emballés par l'arrivée de Josh Anderson. Pour boucler la boucle par rapport à ça, par exemple, il y a évidemment beaucoup de changements qui ont été apportés et il reste encore des choses qui sont en suspens. Et parmi eux, il y a le contrat de Philippe Dano qui continue encore de faire jaser. On a parlé à Philippe un peu plus tôt cette semaine. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de négociations qui ont lieu entre le Canadien et le clan Dano. Sauf que on a évalué en regardant les comparables que si le Canadien parvenait à faire signer un contrat à Philippe Dano pour 5 millions ou moins, il ferait toute une affaire, sauf que visiblement, Dano risque de demander beaucoup plus que ça. Il serait justifié de le faire quand on regarde les comparables. Et les réponses au sondage, parce que justement, on a demandé aux amateurs si Philippe Dano demandait au moins 5,5 millions par année pour son prochain contrat, qu'est-ce que le Canadien devrait faire? Et il y a une majorité de gens qui ont dit, ben, s'il y a moyen de le signer à court terme, faisons cela. Sinon, ben, de le signer à long terme, mais sauf que dans une grande proportion, les amateurs ont l'air de voir Philippe Dano dans la soupe du Canadien et espèrent qu'il va rester à Montréal. Mais à savoir si entre les souhaits des amateurs puis la réalité comptable de la chose, c'est vraiment deux mondes différents parce que c'est pas évident que le Canadien va avoir assez d'argent pour payer Philippe Dano à la hauteur de sa valeur.
Non, puis aussi, c'était 45,5% des gens qui ont dit signer à court terme, mais... C'est clair que Philippe Dano va pas signer à court terme. Ça, c'est assez évident. Sauf si ben il se dit que, OK, un contrat de 3 ans, ça me rend à 30 ans. Je serai quand même dans mon prime à un certain niveau, puis je peux re-essayer le marché quand les finances de la Ligue nationale se stabilisent un peu à une époque où peut-être il serait mieux... il y aurait plus d'argent dans la ligue pour dépenser sur des joueurs, puis il serait mieux placé de vraiment avoir le gros contrat à ce moment-là. Mais honnêtement, je pense que après avoir signé un contrat de transition, il l'a mentionné quand on l'a parlé mardi, il a déjà fait son sacrifice, comme il l'a dit. Il s'attend à être payé comme il faut. Là. Alors, signer à court terme, qui était la réponse la plus populaire, je pense pas que c'est très réaliste. Deuxième plus populaire, c'était de signer à long terme. Ça, c'est encore une fois, il faut le mentionner. Ça mentionnait un contrat de 5,5 millions par année. Alors, c'est pas rien. Il y avait quand même le corps des partisans qui voulaient qu'il soit signé à long terme à ce prix-là. Et à part ça, les trois autres options, c'était toutes des façons de... C'était tous des résultats où Philippe Dano était plus à Montréal. Et ça représentait à peu près le quart des réponses. C'était ou de le faire jouer son dernière année de contrat, puis après il s'en va, ou l'échanger immédiatement, ou l'échanger à la date limite des transactions. Alors, écoute, le dossier est loin d'être clos, ça c'est évident. Et je pense que ça vaut la peine d'en discuter un peu de ce que Philippe Dano a dit mardi. La position du Canadien là-dedans, on en a écrit beaucoup là-dessus, on en a parlé beaucoup aussi. Mais tu sais, je trouvais ça un peu drôle que Philippe Dano était... La seule raison qu'il nous parlait, c'est parce qu'il était le récipiendaire du trophée Jean Béliveau pour la saison, pour son implication dans la communauté. Lui et sa femme, Marie-Pierre, sont très impliqués avec une campagne contre... l'intimidation à l'école, l'intimidation sur les réseaux sociaux, vraiment essayer de rendre la vie plus facile pour les jeunes du Québec, ce qui est vraiment une belle initiative de la part de Philippe et sa femme. Et c'est un problème qui est assez flagrant dans la société aujourd'hui, mais dans le contexte de ce récompense-là pour son implication dans la communauté, on parlait effectivement du fait que ça se peut qu'il est sur le point d'entamer sa dernière saison à Montréal. Non seulement ça, mais ça va être une saison où il va être demandé d'agir comme mentor pour Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi de certaine façon, et aussi Jake Evans, qu'il ne faut pas oublier, c'est un autre jeune centre, c'est un autre centre recru. La ligne de centre du Canadien va être très jeune, puis Philippe Deneuve va avoir beaucoup de responsabilités pour assurer la bonne transition vers l'avenir du Canadien. Dans une certaine façon, Philippe Dano est comme Donald Trump. Puis peut-être qu'il va refuser de faire la transition. mais honnêtement, c'est vraiment une drôle de... Je trouve que c'est quand même particulier comme situation pour Philippe Dano. Il veut rester avec les Canadiens. Il a vu ce qui s'est passé pendant l'été ou pendant la saison morte, je veux dire. Il a vu l'argent que Marc Bergevin a dépensé, non seulement avec les nouveaux joueurs, mais Jeff Petrie a eu un nouveau contrat, Brendan Gallagher a eu un nouveau contrat, et là, Philippe Dano est là, il était comme... Puis lui, il est sans contrat. Puis il aimerait ça en avoir un, mais il y a un nombre fixe de dollars qui est disponible aux Canadiens, et c'est pas très clair comment Philippe Danault et le Canadien vont trouver un terrain d'entente pour qu'ils puissent respecter le plafond salarial, continuer à améliorer l'équipe et aussi que Philippe Danault soit satisfait qu'il a été récompensé effectivement pour le dernier contrat de transition qu'il a signé il y a 2 ans.
Oui, ben cela étant dit, écoute, le contrat qu'il avait signé il y a quoi, 2 ans et demi maintenant, c'est pas non plus comme s'il avait fait une grosse faveur aux Canadiens. Il avait fait pour un contrat de cette durée-là, je pense qu'il avait offert une. Il a signé un contrat qui reflétait bien sa valeur. Il a pas fait une fleur aux Canadiens.
Je suis d'accord.
Cette fois-ci.
Je suis d'accord, Marc-Antoine, oui. mais ce qui est important là-dedans, c'est que c'est pas ce que toi et moi, nous, on pense. Là. Ce qui est important, c'est ce que Philippe, lui, il pense. Puis quand il a dit qu'il a déjà fait le sacrifice avec son dernier contrat, pour moi, c'est ça que ça a indiqué. C'est que à ses yeux à lui, dans sa tête à lui, lui, il voit ce contrat-là comme une sacrifice. Même si c'était parfaitement fair, c'était équitable comme contrat. Là. C'était entièrement d'accord avec toi. Mais l'important là-dedans, c'est que c'est comment est-ce que Philippe Danault voit ça? Puis Philippe Danault a clairement dit à ta question quand tu as demandé est-ce que tu sentais visé par quand Marc Bergevin a dit qu'il y a certaines personnes qu'il va falloir faire des sacrifices pour qu'on puisse être une bonne équipe. Et pour Philippe de dire non, je ne me sens pas visé, anyway, j'en ai déjà fait mon sacrifice le dernier contrat, ça disait beaucoup à mes yeux, là, que lui il trouve que, tu sais, comme Gallagher, d'une certaine façon, tu sais, Gallagher, il avait un contrat, il était sous-payé pendant longtemps. Là, il a été récompensé, il a eu un contrat qui a de l'allure pour le genre de joueur qu'il est. Puis je pense que Philippe Danault a les mêmes attentes à son égard.
Oui, oui, absolument. Ça, là-dessus, c'est clair. Cela étant dit, je pense qu'il y a le problème quand on négocie, quand on veut en arriver à une entente sur un contrat à long terme, c'est non seulement d'analyser la place du joueur dans l'équipe à court terme, mais c'est aussi de la projeter dans l'avenir. Et je pense que là où ça accroche entre Danault et le Canadien, c'est que le rôle qu'on perçoit pour lui dans 2, 3, 4 ans, je pense que c'est là où ça accroche par rapport à ce que lui, à la manière dont lui se perçoit comme joueur. Parce que tu le disais tout à l'heure, le Canadien a procédé à des changements et s'est renforcé, entre autres, en regardant jouer Suzuki et Kotkaniemi cet été et en se disant l'avenir cogne à la porte. Et c'est correct, mais je continue de croire que c'est quand même. C'est précaire, c'est seulement 10 matchs, là. Mais disons que le Canadien a raison de continuer là-dedans et de faire confiance à ces deux jeunes. En fait, il n'y a pas trop de choix. Mais il fait confiance à Suzuki et Kotkaniemi. Ces deux gars-là continuent de prendre leur essor. Forcément, ça place Danault dans une position où il deviendrait, à moyen terme, le troisième centre de cette équipe-là. Et lui, il est dans une position où il se dit, écoute, là, moi, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans au courant de la saison prochaine. Je suis encore dans mon prime. Je continue de m'améliorer offensivement. Je crois que j'ai un autre niveau en attaque que je peux aller chercher. Demandez-moi pas de me tasser puis de laisser la place à un kid qui a 70 matchs, même pas 70 matchs dans la Ligue nationale dans le corps, puis un autre qui a terminé la saison dans la Ligue américaine. Puis moi, il faudrait que je fasse des courbettes puis que je sois celui qui leur cède la place sous prétexte que le depth chart, la hiérarchie de l'équipe, appelle ça. Je pense que, d'une certaine manière, ça va servir autant Philippe Danault que le Canadien si le dossier traîne encore un peu puis qu'on utilise la saison prochaine pour pouvoir essayer de démêler tout ça parce qu'on va avoir des réponses de part et d'autre sur là où les deux parties se campent. Et puis Philippe Danault, je pense que il est tout à fait en droit de dire, ben là, je suis rendu à un point de ma carrière où je peux justifier un salaire de X millions par année, que ce soit 5,5, 6 ou même 6,5. Mais quand je regarde froidement la situation et là où les deux parties s'en vont, je me dis, il y a certainement d'autres équipes dans la Ligue nationale qui, l'été prochain, vont dire on a besoin d'un joueur de centre, on va regarder sur le marché des joueurs autonomes pour s'améliorer. Et Philippe Danault, avec Ryan Nugent-Hopkins, si jamais il ne signe pas de nouveau contrat avec les Oilers, ces deux gars-là, ça va être les deux centres les plus susceptibles de signer des longs contrats des lucratifs contrats parmi les joueurs de centre chez les joueurs autonomes. Donc, il est bien positionné. En fait, il est positionné mieux qu'avec n'importe quelle équipe que le Canadien, parce que le Canadien, lui, dit, regarde, on a dépensé à gauche, à droite, puis quand est arrivé à ton tour, ben on espère que tu vas accepter de te serrer la ceinture parce que tu joues à la maison. Je suis pas certain qu'il va accepter cet argument-là.
Non, peut-être pas, mais je pense que aussi, tu sais, il y a d'autres arguments qui pourraient jouer là-dedans. Tu sais, en ce moment, même l'été, même en été, là, où n'importe quand, peu importe quand la saison morte va avoir lieu, mais disons fin d'été l'année prochaine, c'est vrai que effectivement comme t'as démontré dans ton texte de hier, que effectivement le marché des joueurs autonomes aux positions de centre est très faible, ce qui avantage Philippe Dano. Sauf que si on prend cet été ou cet automne, disons comme exemple, je pense pas que les équipes seront plus prêtes à offrir des contrats à long terme la saison prochaine. Parce que tout va rester, tout va demeurer un peu inconnu. Et je pense que la prudence va être vraiment encore là. Il y a beaucoup d'équipes qui vont être prudentes parce qu'ils vont, en théorie, ils vont avoir terminé une saison où il y avait très peu de revenus qui ont rentré. Les dépenses ont été faramineuses. Il va y avoir beaucoup d'équipes qui sont un peu craintifs quand on parle des engagements à long terme à des joueurs, comme on a vu ici. C'est pour ça que Tyler Toffoli est à Montréal, c'est pour ça que Josh Anderson est à Montréal, c'est parce que Columbus ne voulait pas lui donner 7 ans de contrat. Joel Edmondson, même affaire. Jake Allen, même, tu pourrais argumenter que lui, la seule raison qu'il a signé son contrat, c'est qu'il ne voyait pas mieux sur le marché des joueurs autonomes. Alors, la seule chose que je dirais là-dessus, c'est que le Canadien a encore en poche une façon de faire une entente avec Philippe Dano qui est comme gagnant-gagnant, où sa salaire annuel soit moins de 5 millions de dollars, disons 4,5 ou quelque chose comme ça, ce qui quand tu regardes aux comparables que nous, on a identifiés, les Jean-Gabriel Pageau, Charlie Coyle, Brock Nelson, peu importe, c'est moins que ces gars-là. Sauf que si tu rajoutes, si tu fais ça sur 7 ans au lieu de 5 ou 4, là, ça devient intéressant pour lui. Puis là, c'est une façon de rester à la maison, gagner beaucoup d'argent. Tu sais, en termes total d'argent, un contrat à 4,5 millions par année pour 7 ans, ça serait quoi, 31,5 millions de dollars? Tandis que s'il signe pour 6 ans, il pourrait avoir le même montant en 5 ans. Mais même là, combien d'équipes vont lui offrir un contrat de 5 ans? Je suis pas certain. Alors, je suis toujours de l'avis que c'est ça que le Canadien tente de faire dans son cas. C'est, écoute, le salaire annuel serait peut-être plus bas, mais ça va nous permettre de renforcer l'équipe. Ça va te donner et nous donner une meilleure chance à gagner. Et en fin de compte, en bout de ligne, tu vas quand même avoir ce montant d'argent à la fin de ton contrat. Puis, si Philippe, il y a deux façons de voir ça du côté du joueur. Oui, il y a la sécurité d'un contrat de 7 ans. Oui, il y a l'argent à la fin. Sauf que la plupart des joueurs, ce qu'ils voient, c'est... Oui, ils regardent le montant total d'argent, mais l'autre chose qu'ils voient, c'est que où est-ce que mon salaire annuel se classe parmi tous les autres joueurs de la Ligue? Ça, c'est important aux joueurs, parce que c'est non seulement l'argent, mais c'est juste l'idée que moi, je suis récompensé au niveau que je devrais l'être. C'est une question de fierté. Et je trouve que dans le cas de Philippe Dano, si je le connais bien, puis je pense que oui, que ça va jouer gros dans son thinking. De dire, OK, moi, je suis rendu un des meilleurs joueurs de centre qui joue aux deux bords de la patinoire, qui est aussi bon défensivement qu'il... Ben, peut-être pas aussi bon, mais qui est bon défensivement et offensivement. Alors, je suis dans cette catégorie de joueurs, et parmi cette catégorie de joueurs, je me classe ici. Alors, pour ce classement-là, je mérite tel nombre par année, disons 5,5 millions par année. Et si ça, c'est important pour Philippe, ça va être difficile pour que le Canadien le signe, là. Ça, c'est clair. Si Philippe va être payé à un montant que lui est capable, à la fin de la journée, de dire « OK, je suis payé ma juste valeur », je pense que ça va être très difficile pour le Canadien de trouver une entente avec lui.
Ouais, c'est ça. Puis sais-tu quoi? J'ai l'impression qu'en plus, que dans tout ça, à chaque fois qu'il est question de Philippe Dano, j'ai toujours le même nom qui me revient en tête, celui de Nick Bonino. je me dis, je répondais à un commentaire d'un abonné à propos de justement du texte sur Dano, puis il disait, comment ça se fait que le Canadien a à mes yeux surpayé Brendan Gallagher, puis il veut essayer de faire des économies avec Dano. Puis je lui ai répondu que le Canadien ne serait pas capable sur le marché des joueurs autonomes d'aller chercher un joueur équivalent à Brendan Gallagher l'été prochain, encore moins de l'attirer à Montréal. Pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il apporte à l'équipe, il n'y a pas ce type de joueur-là qui serait accessible aux Canadiens. Tandis que si jamais le Canadien est incapable de s'entendre avec Philippe Dano, s'il entrevoit qu'il y a un profil de troisième centre qui prend les mises en jeu importantes, qui joue en infériorité numérique, qui peut être utilisé en fin de match, ben, tu peux te tourner vers un gars comme Nick Bonino, qui est plus âgé, mais qui va te coûter pratiquement la moitié du prix. Il est moins bon, mais il va quand même, pour les besoins, pour ce dont tu as besoin, il va quand même faire à peu près ce que tu recherches comme mandat, comme responsabilité. Donc, écoute, le scénario que tu décris tout à l'heure, de dire, ben écoute, on fait valoir un contrat à long terme, le fait que tu puisses rester à la maison, Philippe a mentionné le fait que le fait d'avoir un enfant, sa dynamique familiale, ça allait influencer également toute son approche dans son métier de hockeyeur. Si le Canadien peut mettre ça de l'avant puis faire en sorte qu'il lui fasse signer un contrat de 5 millions au moins, ce serait formidable, ce serait d'excellentes nouvelles pour le Canadien, parce que le Canadien est une meilleure équipe avec Philippe Dano dans la formation. À mon avis, il n'y a aucun doute. Mm-hmm. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, je considère, quand tu rappelais qu'il a dit, j'estime avoir fait mon sacrifice lors de mon contrat précédent, c'est qu'il a une certaine idée de sa valeur, de ce qu'il est à même d'apporter, puis il y a une confiance en ses moyens qui, à mon avis, s'enligne mal avec le fait de dire, vous savez quoi, vous avez raison, puis je vais signer en bas de la feuille. Alors, espérons que c'est ce qui va arriver. Mais mon impression, c'est que le Canadien va passer toute la saison avec Philippe Dano. Philippe Dano va les aider à rentrer en séries éliminatoires, puis on verra ensuite. Mais je serais pas surpris qu'à la fin de la saison, on dise ben, on n'est pas en mesure d'en arriver à une entente. Fait que bonne chance aux deux parties.
Oui, puis n'oublie pas que le Canadien avait offert à Nick Bonino plus d'argent qu'il a reçu de la part des Prédateurs de Nashville quand il était joueur autonome. En fait, plus d'argent brut, là, mais tu sais, l'argent net, je pense que c'était pas mal kiff-kiff à cause de la situation des impôts à Tennessee. Mais le Canadien était très intéressé dans les services de Nick Bonino quand il était joueur autonome. Puis il avait même offert un contrat qui était plus riche que celui qui a signé avec les Prédateurs.
Voilà, donc sachant, à mon avis, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours.
Ouais.
Le moment pourrait arriver où est-ce que Bergevin dit « Bon, ben là, le temps est venu que j'aille chercher mon vétéran. » Écoute, je sais pas, mais ça m'apparaît un plan B potentiel. Alors, on verra.
Moi, je suis de l'avis qu'ils vont trouver une façon de rendre les deux parties heureux dans cette situation-là. Je suis convaincu que... Ouais. Ben, je pense que...
J'aimerais ça.
En fin de compte, tout ce que j'ai dit sur Philippe, c'est vrai. Il veut être reconnu comme... le joueur qu'il est. Et il sait qu'il est rare comme joueur. Moi, j'en ai parlé souvent avec lui. Là. Il comprend à quel point son package, son toolbox, comme on dit en anglais, mais son boîte d'outils est quand même non seulement rare, mais il est très convoité. Chaque équipe aimerait avoir un joueur comme Philippe Dano dans leur formation, un joueur polyvalent, un joueur qui t'aide en défensive et qui nuit pas en offensive. En fait, non seulement qu'il nuit pas, il aide en offensive de sa façon. C'est pas quelqu'un qui va le mettre dedans trop souvent, mais c'est quelqu'un qui va récupérer des rondelles puis faire en sorte que tu joues pas trop souvent dans ta zone défensive. Alors, et cette demande pour un joueur de sa trempe, Philippe Dano est entièrement conscient de ça. C'est quelque chose qui a une très bonne compréhension. Et alors... Tu sais, je pense que ça va être... Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où ça me surprendrait pas s'il joue toute la saison sous ce contrat-là, qu'il soit pas échangé à la date limite des transactions, puis, à dernière minute, quand la réalité du départ de Philippe Dano devient vraiment réelle pour le Canadien et pour Phil lui-même, je suis convaincu que les deux parties vont trouver une façon de trouver une entente, parce que je pense que Philippe est très heureux jouer chez lui à Québec. C'était drôle l'autre jour pendant son appel Zoom avec les journalistes, on entendait la famille dans le background. Et c'était pas juste sa femme, là, c'était, il avait l'air d'avoir beaucoup de monde chez Philippe. Et il y a une certaine valeur aussi, tu sais, la proximité à ta famille, le réseau de support que t'as quand t'as un jeune enfant, ça compte pour quelque chose. Je pense que n'importe qui déménageait à une autre ville, puis a eu un enfant, puis soudainement, ils se sont rendus compte que ah, ça serait bien d'avoir mes parents ici, ou mes tantes, ou mes oncles, ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça. Je pense, mais je pense que je suis d'accord avec ton point de vue que ce dossier-là est loin d'être clos. Puis, si jamais ils trouvent une entente, à mon avis, ça serait pas avant la fin de la saison prochaine.
Oui. Philippe Dano est pas le seul à qui on a parlé cette semaine. Écoute, il y a des éléments. Un élément de nouvelle qui est survenu, c'est, puis ça va nous permettre de tourner la page là-dessus, c'est le départ de Shane Shirley. Qui était le bras droit de Trevor Timmons. Il occupait le poste de directeur du recrutement amateur chez le Canadien. On pourrait dire, hein, mais comment ça, c'est Timmons qui est le directeur du recrutement, mais c'est un titre qui avait été remis à Shirley. En fait, d'une certaine manière, c'est un effet domino parce que Timmons, en 2017, avait été approché par une autre équipe de la Ligue nationale pour obtenir une promotion. Et pour le garder avec le Canadien, Bergevin lui avait donné le titre d'adjoint au directeur général. Et puis, par une espèce d'effet domino, on a offert également une promotion de titre à Shirley. Et là, il vient d'accepter le même titre, mais avec plus de responsabilités, avec les Panthers de la Floride. Donc, il devient le patron du recrutement chez les Panthers de la Floride. Il aura passé 7 ans dans l'organisation du Canadien, dont 4 vraiment comme bras droit de Timmons. Et puis, écoute, c'est une bonne tête de hockey, Shane Shirley. Je serais curieux d'avoir ton avis, Arpin, à savoir est-ce que le Canadien perd quelqu'un de significatif là, avec Shirley?
Ben, c'est sûr qu'il perd quelqu'un de significatif. C'est comme Shirley et Timmons travailler ensemble pour vraiment être les derniers, tu sais, la dernière ligne de défense, disons, pour le recrutement. Tu sais, c'est eux autres qui faisaient souvent le cross-check, le cross-check final avant le repêchage. C'était eux autres qui avaient le plus d'influence dans la chambre quand ils faisaient leur réunion avec leur dépisteur. C'est quelqu'un qui, tu sais, c'est sûr que son départ est significatif, sauf que je pense que dans les yeux de beaucoup de partisans, ils se demandent OK, ben, est-ce que la fiche au repêchage du Canadien est tellement glorieux? Est-ce que les Canadiens ont vraiment fait si bien au repêchage pour dire que perdre le directeur du recrutement amateur, c'est comme une immense perte? Et je pense que c'est une question qui est quand même légitime et qu'on devrait peut-être considérer. Parce que oui, Shane Shirley, c'est un bonhomme de hockey, c'est un gars qui travaille très fort. Mais en même temps, tu sais, il faut avouer que, tu sais, les repêchages avant les deux derniers, disons, tu sais, les Canadiens avaient très peu de choix, ça c'est vrai. Mais ils n'ont pas vraiment gradué beaucoup de joueurs de ces choix limités qu'ils avaient. Et là, on va voir. En fait, on va réaliser à quel point le départ de Shane Shirley a fait mal aux Canadiens. Seulement dans 2-3 ans, quand les joueurs qu'ils ont repêchés en 2018 et 2019 et 2020 seront sur le point d'arriver à l'équipe. Puis rendu là, c'est les Panthers qui vont avoir profité de ce que Shane Shirley a fait pendant 2-3 ans déjà, avant qu'on puisse déterminer à quel point c'était important comme départ chez le Canadien.
Ouais, je lui ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, puis il dit que ça a été une des décisions les plus difficiles de sa vie, que de quitter le Canadien. Je sais que ça a été même une décision émotive pour lui. Il a une énorme estime pour le Canadien de Montréal. Tu sais, j'ai déjà... Pour Athletic, je suis parti en reportage au mois de janvier 2019, une semaine sur la route avec Shane. Et donc, on est allé, on s'est promené d'aréna en aréna ensemble, puis en Alberta, puis au Minnesota également. Et il me disait que dans sa famille, c'était des fans des Canadiens depuis son tout jeune âge. Il a grandi en étant un fan fini d'Yvan Cournoyer. Et puis, Bob, dans le temps où il jouait pour les North Stars du Minnesota, en fait, pour les Stars de Dallas, et que Bob Gainey faisait partie de l'état-major des Stars. Et quand l'équipe venait jouer à Montréal, Gainey invitait des anciens du Canadien à venir souper avec les joueurs des Stars. Et puis là, ben, la fleur venait. Puis une fois, il y a eu Cournoyer. Puis Cournoyer était assis juste à côté de lui. Puis il dit, je me sentais tout petit, tu sais. Puis Shane Shearer n'est pas exactement un petit garçon.
Non.
donc, c'est... non. Et donc, c'est ça. Et puis, donc, lui, c'était significatif pour lui de travailler pour les Canadiens de Montréal. Il dit qu'il a été traité comme la royauté durant son passage ici, sauf que là, il se retrouve dans une situation où il va pouvoir construire tout son personnel, bâtir son équipe de recruteurs par lui-même, et il s'en va rejoindre, entre autres personnes, Rick Dudley, qui a eu un passage à Montréal, on le sait, il a été un des adjoints de Marc Bergevin pendant quelques années, et pendant le temps où Dudley a été à Montréal, il s'est développé vraiment des affinités avec Shane Shearer, les deux hommes étaient très proches, ils aimaient parler de politique américaine ensemble, et ces deux gars qui sont tous les deux, comme on dit en anglais, des rink rats, c'est des gars qui sont discrets, et qu'à un moment donné, ils vont se fondre dans les bleachers, et que tu les verras pas, mais ils se retrouvent à quelque part dans un aréna quelconque, perdu au fin fond de nulle part, pour aller observer un joueur. Et Shearer dit, écoute, je quitte une organisation où mon supérieur, Trevor Timmons, était un gars très, très organisé, mais dis-moi fondamentalement, je suis un gars de terrain, je suis un évaluateur de talent, mon plaisir, c'est d'évaluer des gars, puis je pense que c'est ça ma force. Et là, aujourd'hui, ben, c'est ce qu'il s'en va faire avec les Panthers de la Floride, mais avec une équipe qui a beaucoup moins de moyens que le Canadien. Je pense qu'ils ont pour l'instant deux ou trois recruteurs qui leur restent sur leur liste de paye. Donc, il va avoir toute une équipe à rebâtir. Et dans l'intervalle, je sais pas si le Canadien va juger que c'est pertinent de combler son poste ou non. Peut-être qu'on va vouloir donner plus de responsabilité à Martin Lapointe, sait-on jamais. Mais écoute, en parlant à des gens à gauche à droite, je réalise que Martin Lapointe emmène large au fil des ans avec le Canadien. Et je sais pas dans quel va être son prochain rôle au sein de l'équipe, mais je pense qu'il est bien positionné pour les années futures à Montréal. Ce cher Martin.
Oui, absolument. Tu sais, je pense qu'il joue un peu dans les deux départements, disons, le département de recrutement amateur. En fait, trois, recrutement amateur, recrutement professionnel et développement. C'est les trois. Tu sais, Rob Ramage, il en a parlé que Martin Lapointe lui donne un coup de main. On entend parler de lui dans des arénas autour de la Ligue nationale, comment Martin Lapointe se pointe à des matchs de temps en temps, puis le monde le voit sur le terrain pour les matchs de la Ligue nationale et aussi dans les arénas juniors ou européens pour l'amateur. Alors oui, effectivement, je pense que c'est un gars qui va peut-être prendre plus d'importance côté amateur avec le départ de Shearer, mais moi, je ne m'attends pas à ce que Shane Shearer soit nécessairement remplacé. On verra. Mais ça me surprendrait un peu s'il soit remplacé tout de suite, au moins. Je pense qu'ils seront confortables pour l'année en cours, disons, l'année de recrutement en cours, d'aller avec Trevor, leur groupe de recruteurs, et peut-être Martin dans un rôle un peu plus important pour l'instant, puis réévaluer le tout la saison prochaine pour combler ce poste-là, si jamais il décide qu'il doit combler avec quelqu'un.
Écoute, parlant d'aréna européen et tout ça, pour le bénéfice de nos lecteurs, de nos lecteurs et de nos auditeurs dans ce cas-ci, mais là je fais un petit crush. Là. Peux-tu nous donner un peu une clarification par rapport à la fin de l'entente de prêt de Jesperi Kotkaniemi avec son équipe à Pori?
Ah oui, effectivement. En fait, c'est assez simple dans le fond parce que vu que la Ligue nationale de hockey ainsi que l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, ni l'un ni l'autre ont annoncé publiquement, officiellement, que le 1er janvier n'est plus réaliste, qu'on serait pas capable d'entamer la prochaine saison à cette date-là, qui est quand même dans 5 semaines. Étant donné que c'est le cas, étant donné que s'ils veulent commencer une saison le 1er janvier, il faudrait commencer le camp d'entraînement aux alentours du 15 décembre, et étant donné que... n'importe qui rentre au Canada a besoin de faire une quarantaine de 14 jours. Le clan des Jesperi Kotkaniemi, selon ce que je me suis fait dire, c'est que il espérait lui-même, puis sa famille, puis le Canadien et tout le monde était d'accord que il avait quand même eu le bénéfice de jouer le dizaine de matchs qu'il a joué avec son équipe de sa ville natale à Poirier. Et que le temps était rendu, parce que dans le fond, pour préparer pour un camp d'entraînement, c'est pas la même chose que de jouer des matchs. T'sais. Il y avait des choses qu'il fallait qu'il fasse dans le gymnase pour préparer pour un camp d'entraînement qui pourrait commencer, en théorie, en 3 semaines. Je crois pas que ça va arriver, là, mais pour l'instant, c'est ça la réalité. Alors, je pense que toutes les parties ensemble ont convenu que la meilleure chose pour lui, ce serait qu'il arrête de jouer. Il se met dans le gymnase, il se met à préparer. Puis, si jamais l'Association des joueurs et la Ligue nationale sont capables de venir à une entente d'ici la semaine prochaine, il serait prêt à venir à Montréal, faire sa quarantaine de 14 jours avant le début du camp, puis soit au moins avoir une base de préparation physique qu'il a fait en Finlande avant, pour qu'il puisse toffer ces 14 jours-là, faire ce qu'il est capable de faire dans son appartement. Et être prêt pour le camp d'entraînement. Alors, grosso modo, c'est ça. Et la chose qui était encourageante de Code Kenimi en Finlande, c'est que il a quand même pu débloquer offensivement avant de partir. Tu sais, à 4 matchs sans points, tout le monde s'est mis à paniquer, mais quand même, il faut se rappeler que ces joueurs-là en Finlande, ils étaient en camp d'entraînement en mois d'août. Il y avait un calendrier complet de matchs pré-saison. Alors, eux autres qui étaient rendus à leur 25e, 30e match, quelques-uns, puis Kotkaniemi commençait à jouer. Alors, ça lui a pris 4 matchs, mais après ça, c'est 8 points en 6 matchs, et puis il avait l'air un peu plus impliqué, créait plus de chances à marquer. Alors, je pense que c'est une bonne affaire pour lui, c'est une bonne expérience, une bonne façon. Et quand je lui ai parlé, je pense que la chose qui a retiré le plus là-dedans, c'est que le hockey finlandais, ça fait plus son affaire. C'est pas de sa façon. Ça fait le style qui est pratiqué là-bas. Il trouve ça quand même assez plate. Puis il a hâte de revenir sur le petit patinoire ici en Amérique du Nord où ça frappe un peu plus. Puis il y a plus de bataille pour les rondelles. En fait, c'est ça qui lui manquait, ce qui est drôle, ce qui est ironique. Puis je pense que ça va faire plaisir à Claude Julien d'entendre ça. Parce que c'est les batailles pour les rondelles qui faisaient plus défaut dans son jeu avant. Il était tout en train de tomber sur la patinoire. Il était pas capable de sortir ces batailles-là avec la rondelle. Alors le fait qu'il retourne à son ancienne équipe, dans son ancienne ligue, Liga, puis dire que il y a aucun bataille pour les rondelles, ça me manque. Claude Julien, je suis sûr, j'espère qu'il a lu mon texte, mais s'il l'a lu, il aurait un grand sourire sur sa face en lisant ce commentaire-là.
Ben c'est clair, surtout que quand tu regardes son rendement, ses résultats, c'est un des éléments de son jeu qui a tellement amélioré. Son implication physique, on ne soupçonnait pas de la part de Kotkaniemi au moment de son repêchage qu'il y avait nécessairement cette fibre-là. On se disait, ben, il va être capable, quand il va avoir une maturité physique, il va être capable de s'imposer, puis de protéger sa place, comme les plus gros gars, les joueurs de centre du gabarit de Getzlaff, de Barkov, des gars comme ça. Mais pas nécessairement d'être un gars physique, sauf que ce qu'on a vu dans les séries éliminatoires, c'est un gars qui prend plaisir à mesure que, un, il prend confiance en ses moyens, et deux, qu'il prend de la force physique. Il aime initier le contact physique. Alors, je trouve que c'est une facette intéressante parce que moi, honnêtement, je n'avais pas vu ça venir. Et on verra si c'était juste une petite lubie d'un gars dans sa bulle à Toronto, ou bien si c'est vraiment le signe d'une portion de son jeu qu'il veut vraiment développer. Mais non, c'est intriguant, ça, cet aspect-là. Puis effectivement, les grandes patinoires, le style de jeu qui est très axé sur la trappe en zone neutre, où ça se passe très peu le long des bandes, ben je le comprends tout à fait d'avoir trouvé ça ennuyant, puis d'avoir cherché sans succès ces confrontations-là. Alors, ben écoute, au moins, puis sa décision de revenir, je trouve ça intéressant, c'est bien calculé. C'est un petit peu optimiste, par exemple, par rapport à ce qu'on entend sur un potentiel retour.
Je pense pas qu'il est sur le point de revenir, nécessairement. Il reviendra pas avant qu'il aille ce date-là ou cette annonce-là. Je pense pas, c'est ça. C'est surtout, il va rester en Finlande, en tout cas, en ce que... C'est ma compréhension des choses. c'est qu'il a arrêté juste pour qu'il soit, juste pour qu'il se mette à se préparer pour le camp d'entraînement, mais il va se préparer là-bas. Alors, je pense qu'il y a personne qui s'en vient au Canada, sauf s'il y a une date prévue pour le camp d'entraînement, là, parce que c'est vraiment... ça serait ridicule de venir ici puis faire une quarantaine de 14 jours juste pour retourner chez lui, là. C'est un peu ça, alors... Ouais.
Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, les cas de COVID qui traînent un peu partout, c'est pas non plus...
Non, c'est pas très attrayant. On ne sont pas très attrayants comme
les choses
comme
vont
pays.
Relativement bien. C'est comme, ouais, let's go!
On y va à Montréal!
Non, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ben, exactement.
Ouais, puis parmi toutes les villes du Canada, je pense que Montréal, c'est le pire là-dedans. Alors, c'est effectivement... C'est juste pour... Pour l'instant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer sa préparation. Ce qu'il faisait avant qu'il allait jouer avec Assat, il y a deux préparateurs physiques avec qui il travaille, qui sont basés à Helsinki. Il va se remettre à travailler avec eux pour se préparer pour le camp d'entraînement. Puis une fois qu'il y a une date d'annoncer, je pense que c'est à ce point-là que non seulement lui, mais Armia, Lakenen, mais en fait tous les joueurs qui sont en Europe, commenceraient à prendre le chemin vers le Montréal ou vers leur ville... peu importe la ville où il joue là, mais je pense que tout le monde et tous les joueurs sont en train d'attendre juste cette annonce-là, puis ils savent pas plus que nous. C'est ça qui me frappe. C'est que, tu sais, Kotkaniemi, au moins dans le cas de Kotkaniemi, lui, il a aucune idée. Il n'y a pas plus de nouvelles que nous, puis même aujourd'hui, on a parlé à Kirk Muller, puis lui aussi, il a dit la même chose, que moi, j'ai toute l'information que vous en avez là. Alors, tout le monde est en mode attente en ce moment.
Oui. Tu parles de Kirk Muller. Les joueurs attendent, mais les coachs attendent également. Puis Kirk Muller, il a pas dû. Il manque pas de temps pour réviser ses stratégies puis essayer de voir comment il peut finalement solutionner les problèmes de l'avantage numérique. Ça fait 2 ans. Si on compile les statistiques des 2 dernières saisons, le Canadien est 30e sur 31 équipes de la Ligue en supériorité numérique. Ça a été. On a beaucoup posé la question à savoir est-ce que ce sont des problèmes d'effectifs ou est-ce que c'est des problèmes de stratégie. Pendant les 2 dernières saisons, les coachs disaient, vous savez, on a les joueurs qu'il faut, il s'agit de mettre en application ce qu'on leur demande. Mais là, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Toffoli entre il faut rentrer dans le mix, comme on dit. D'après ce qu'on comprend de la part de Kirk Muller, il y a un intérêt également d'intégrer Josh Anderson à l'avantage numérique, même s'il n'a pas nécessairement été un rouage important de l'attaque à 5 des Blue Jackets de Columbus par le passé. Mais après 2 ans, je te dirais même, ça traîne depuis plus longtemps que ça. Ça va être un aspect déterminant dans les succès du Canadien, surtout si, pour une raison X, Y, Z, les problèmes de finition à 5 contre 5 persistent. Il va falloir que le Canadien, s'il veut vraiment se donner une chance d'être compétitif, qu'il puisse trouver une façon de faire fonctionner son avantage numérique. Alors, je te lancerai la question comme ça, Arpin. Est-ce que tu penses que Kirk Muller est encore l'homme de la situation pour pouvoir procéder à ça? Puis comment tu vois, avec justement l'addition de Toffoli, celle d'Anderson, puis aussi avec le départ de Max Domi également, comment tu vois l'avantage numérique se dessiner la saison prochaine?
Bien, je pense que l'aspect le plus intéressant de la disponibilité de Kirk Muller aujourd'hui, c'était que lui-même, sans être vraiment demandé la question, sans qu'il soit demandé la question spécifiquement, a mentionné à quel point Nick Suzuki va avoir plus de responsabilités cette année. Alors déjà, le fait que dès le départ, dès le début de la saison, Nick Suzuki peut servir un peu comme un corps arrière. C'est quand même important comme nuance. Que les Canadiens, particulièrement sur les ordres de Kirk Muller, mais traditionnellement, c'est une équipe où tout le jeu de puissance est organisé depuis, mais pas la pointe, mais depuis la ligne bleue. C'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient que la rondelle passe tout le temps par là, dans le parapluie. Là. Et je pense que ce qu'on va voir, c'est de voir Nick Suzuki qui manie la rondelle plus souvent et que la rondelle soit basée là, au lieu d'en haut. Et ça lui donne beaucoup d'options, puis il est vraiment bien à trouver des lignes de passe, tu sais, dans l'enclave, mais non seulement dans l'enclave, mais à l'autre bord de l'enclave pour trouver le lanceur de l'autre bord de la patinoire. Tu sais, il est capable de faire un peu de tout. du cercle droite. Là. Alors là, la question devient comment est-ce qu'on va l'entourer? L'année passée, il a vraiment fait une bonne combinaison avec Thomas Tatar sur ce qui était la deuxième unité du Canadien, mais était vraiment l'unité la plus efficace des deux.
Écoute, il faut que ces deux gars-là fassent partie de la première unité. C'était les deux seuls joueurs vraiment efficaces en supériorité.
Ben, c'est ça, sauf que ça prendrait... Tu sais, c'est une question philosophique, là, parce que... Tu sais, Kirk Muller a dit aujourd'hui qu'idéalement, dans un monde idéal, Shea Weber se retrouverait à ce cercle gauche et serait comme notre Ovechkin. Le fait qu'il y a tellement une lancée puissante, de le placer là, c'est l'avantage de notre jeu de puissance, puis c'est la meilleure place possible pour lui. Alors, si tu veux que Tatar et Suzuki jouent sur la même unité, et que si Muller dit que c'est Weber qui est le mieux placé au cercle gauche, ça veut dire où le Canadien décide que Suzuki et Tatar vont rester sur la deuxième unité, ce que Kirk Muller a déjà dit, que Suzuki aura plus de responsabilités. L'autre option, c'est que finalement, on admet qu'on n'est pas capable de tirer, et ça, je parle de Kirk Muller en particulier, que lui n'est pas capable de tirer l'avantage que le Canadien devrait avoir avec un Shea Weber sur l'équipe, avec un gars qui attire tellement d'attention de l'équipe adverse, de l'infériorité numérique adverse, et n'est pas capable de trouver des trous pour marquer des buts à cause de l'attention que lui attire. Alors, à un moment donné, peut-être que le Canadien dit « OK, bon, ben finalement, ce qu'on va faire, on va mettre Weber sur la deuxième unité, on va permettre à Suzuki de travailler avec Tatar, travailler peut-être avec Toffoli dans l'enclave, Petrie en haut, et peut-être un Drouin sur la ligne début, ou même un Kotkaniemi sur la ligne début, et on verra ce que ça donne. » Et ce qui est très intéressant... Mais ça prendrait une discussion avec Shea Weber, ce qui serait pas très plaisant. Moi, je me demande quel entraîneur serait celui qui est jugé d'être le plus propice à convaincre Shea Weber que ça, c'est pas une insulte, ça, c'est pour le bien de l'équipe. T'es toujours aussi important dans le jeu de puissance, sauf que blablabla. Peux-tu juste imaginer le regard de Shea Weber pendant cette conversation-là, en train de regarder, puis en train de juste percer ses yeux qui percent l'âme de Claude Julien, disons, si c'est lui qui a... Ce serait pas une discussion qui serait très, très facile, puis c'est quelque chose que les Canadiens ont absolument refusé de faire. Depuis que Shea Weber est là. Shea Weber, c'est constant sur la première unité, puis c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être repenser.
Mais le problème dans tout ça, c'est que Shea Weber, quand tu regardes les statistiques, est beaucoup moins performant en supériorité numérique que peut l'être, par exemple, Jeff Petrie. Mais c'est pas nécessairement à cause de Weber lui-même. Je veux dire, il est encore un gars qui est capable de marquer des buts en supériorité numérique. C'est encore l'une des principales menaces de cette équipe-là. Sur l'attaque à 5. Sauf que si tu dis on le retire, on le met sur la deuxième unité, lui il dit ben pourquoi? C'est pas à cause de ce que lui ferait de pas bien, c'est à cause d'une incapacité soit de ses coéquipiers ou encore du personnel d'entraîneur de trouver des solutions sur des façons de travailler avec le fait qu'on le couvre exagérément. Parce que là, ça fait 2 ans que Kirk Muller, que même que Claude Julien disent, ben écoutez, les adversaires trichent en direction de Weber et c'est à nous de profiter des opportunités qui s'ouvrent ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'on a entendu ad nauseam, puis j'ai pas l'impression que à un moment donné, si on fait ce constat-là et que on n'est pas l'équipe n'est pas capable de vraiment en tirer profit finalement, ben il y a quelque chose qui fonctionne pas quelque part. Est-ce que c'est au niveau des plans de jeu qu'on établit? Est-ce que c'est simplement il y a quelque chose qui clique pas avec des partenaires? Mais sauf que est-ce que c'est je comprendrais chez Weber dire un instant là, pourquoi c'est moi qui en ferais les frais. Mais en même temps, il y a aussi il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis quand tu regardes la dernière saison, ce qui a fonctionné, c'est le duo Tatar et Suzuki. Puis dans le cas de Tatar, il a même eu un très bon rendement il y a 2 ans. Alors, j'ai hâte de voir, parce que quand Muller nous a parlé aujourd'hui, il disait, écoute, il a comparé, comme tu le disais tout à l'heure, il a comparé la situation de Weber en disant il pourrait être notre Ovechkin, mais il dit un élément qui fait en sorte que Ovechkin connaît du succès en avantage numérique avec les Capitals de Washington, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont des menaces à d'autres endroits, puis il l'a nommé entre autres TJ Oshie, qui lui utilise le poste de bumper là, au centre de l'enclave. Et là, le Canadien vient d'aller chercher Tyler Toffoli, un joueur qui par le passé a connu quand même pas mal de succès dans ce rôle-là, et qui est un tireur droitier également. Donc, est-ce que finalement, si tu dis on construit une unité avec un modèle X basé sur Suzuki et Tatar et d'autres joueurs, et tu bâtis une autre unité qui est à la Capitals de Washington, à partir de, justement, Weber, à partir de Toffoli, peut-être qu'avec deux unités qui seraient stables mais qui auraient des schémas différents, on pourrait peut-être en arriver à des résultats qui seraient plus satisfaisants, mais sauf que le Canadien, à un moment donné, va devoir trouver des solutions.
La seule chose que je dirais là-dessus, puis c'est pas pour ça que j'ai demandé à Whit Muller, c'est quoi, quelle importance est-ce que le Canadien place sur les tireurs à droite ou les tireurs à gauche? Parce qu'en théorie, si tu y penses, avoir Nick Suzuki au cercle droite, qui a la rondelle sur son bâton la plupart du temps, ça serait l'avantage du Canadien d'avoir un gaucher sur la ligne des buts, un droitier dans l'enclave, puis un droitier dans le cercle gauche, ce qui n'est pas le cas de Tatar. Tatar, c'est un gaucher. Alors, dans un monde idéal, ce serait vraiment ça, parce que comme ça, tu auras Suzuki qui pourrait refiler la rondelle ou à Toffoli ou à Weber, disons, à cercle gauche, pour des tirs sur réception. Puis aussi le gaucher, disons, Drouin ou Kotkaniemi sur la ligne des buts, qui aura aussi la possibilité d'avoir un Petrie, disons, sur la ligne bleue. Alors, si tu as un droitier en Petrie sur la ligne bleue, un droitier en Toffoli dans l'enclave, puis un autre droitier à cercle gauche dans forme de Weber, puis là, tu as Suzuki qui pourrait les repérer de sa place avec le cercle droit, puis tu as aussi Kotkaniemi qui serait capable de faire la même chose, disons, dès la ligne des buts. Là, ça commence à devenir intéressant. Ou l'autre option, ça serait, ben dans le fond, disons que c'est Drouin ou Kotkaniemi sur la ligne des buts, sur la première unité. Celui qui ne l'est pas serait peut-être le gars qui pourrait jouer le même rôle sur l'autre unité, sauf que de l'autre côté de la glace. C'est avoir Kotkaniemi et Drouin dans le cercle gauche, puis avoir Tatar peut-être dans le cercle droit comme tireur. Il y a des combinaisons qu'on n'a pas vraiment vues l'année passée, mais tu sais, avoir Anderson devant le filet comme droitier, qui pourrait, tu sais, il y a beaucoup de possibilités maintenant avec l'addition de Toffoli et Anderson, mais on parle de beaucoup de lanceurs droitiers parmi les joueurs qui seront en liste peut-être pour jouer en jeu de puissance. T'as Gallagher, t'as Toffoli, t'as Anderson, Petrie, Weber, Suzuki, ça fait 6 déjà. Alors, il va falloir trouver un bon mix là-dedans.
Ouais, les temps ont changé, hein. Il manquait de tireurs droitiers chez le Canadien.
Ouais, c'est ça. C'est plus le cas du tout. Ouais,
c'est que, ben écoute, ça, c'est. Je suis certain que l'avantage numérique décortiqué et passé au peigne fin, c'est le genre de choses auxquelles on aura l'occasion de revenir une fois qu'on aura des matchs à se mettre sous la dent. Puis on verra, Harpin, à quel moment on fera notre prochain épisode qui aura lieu en anglais, le The Athletic Support. Mais ça fait du bien de te retrouver. Alors, et de pouvoir jaser de hockey
ouais,
avec toi.
Moi aussi, c'est toujours le fun, puis c'est le fun de retrouver nos auditeurs. Alors, à la prochaine, on verra quand ça va être, mais sinon, ben, peut-être bonne année, on verra si on est rendu à ce point-là de l'année. Mais en tout cas, non, je pense qu'on va se reparler avant la fin de l'année, mais en tout cas, c'est bonne... Bon hiver, je dirais. Il y a du neige.
On fera un bye-bye, on fera une émission, on fera un spécial bye-bye. Bye bye 2020 avec le super athlétique, tu sais.
Ouais, c'est ça. Pirelli. Absolument. Ouais. Alors, à la prochaine, tout le monde.
OK. Salut bien tout le monde. Bye bye.